Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur révélationbible.fr. Vous savez, ou peut-être pas, que Facebook m'a bloqué pour 30 jours. Il me reste encore 19 jours, je ne peux pas vous atteindre sur Révélation Bible Facebook, mais maintenant venez, inscrivez-vous, faites tout le nécessaire pour pouvoir être inscrit sur mon site Révélation Bible en un mot et sans accent. révélationbible.fr. Inscrivez-vous à la newsletter. Une fois que vous serez inscrit, on va vous envoyer un mail pour que vous confirmiez que c'est bien vous qui vous êtes inscrit. Voilà, je vous dis ça parce que on risque d'être encore bloqué. Voilà, je ne dis que ça. Si vous voulez, la vérité a de la peine des fois à passer. Lisons Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. On était resté là dans la lettre aux Hébreux. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour ni fin, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure à perpétuité. Amen. Alors voilà que Paul, je crois que c'est Paul qui a écrit, je vous le redis, cette épître. Et alors voilà qu'il revient sur le sujet glorieux de la sacrificature, c'est-à-dire de la prêtrise de Jésus-Christ. Alors, il l'a déjà fait dans les chapitres précédents, mais il va le faire encore parce qu'il veut mettre absolument en contraste la prêtrise d'Aaron ou de Lévi pour montrer l'immense supériorité de la prêtrise de Jésus. Alors, pour mettre en évidence la supériorité de la prêtrise de Jésus, il prend pour type la prêtrise de Melchisédek. La prêtrise de Melchisédek est tout à fait en dehors de celle d'Aaron. Voilà. Il ne fait pas partie de la lignée. La prêtrise d'Aaron, d'abord, n'a été instituée que beaucoup plus tard, avec Moïse. La sacrificature de Melchisédek, elle offre des traits semblables à celle de Jésus. Alors, voyons un peu qui est ce Melchisédek. On le voit surgir au chapitre 14 de la Genèse. Alors, on va aller voir dans Genèse 14 qu'est-ce qu'il nous est dit. Verset 1. Un peu plus loin. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit : Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a très peu de choses au sujet de Melchisédek. En fait, le texte que je viens de vous lire, c'est la seule fois où on entend parler, c'est dans Genèse 13 et 14. Le psaume 110:4 nous parle de l'Éternel parlant au Seigneur, donc parlant à Jésus. On peut le lire, c'est dans le psaume 110. Je croyais que je l'avais noté. Non. Alors c'est dans le psaume 110 et verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc c'est l'Éternel qui parle à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion Le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur, etc., etc. Donc ça, c'est on peut lire encore un plus loin, si vous voulez. Mais enfin, vous lirez ça chez vous, c'est très beau. C'est les questions là de Dieu qui parle à Jésus en lui disant ce qu'il va venir faire sur terre. Alors, question. Comment Paul savait-il que Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie? Alors, les plus spirituels vont me dire par révélation, ce qui est une probabilité, oui, mais les gens qui connaissent un peu l'histoire savent que Paul, comme ses contemporains religieux, possédait des livres, et en particulier un livre que les chrétiens ont mis de côté et que Dieu, dans sa grâce, nous a fait découvrir le 9 juin 1987. Quand je dis nous l'a fait découvrir, c'est à nous autres ici, à la communauté, nous avons découvert cela le 9 juin 1987. Parce que, en effet, entre 1947 et 1956, ont été découverts ce que le monde connaît sous le nom des manuscrits de la mer morte. Ce sont des grottes dans lesquelles il était trouvé des manuscrits, des fois en très mauvais état, mais des manuscrits. C'est à Qumran, j'y suis allé avec mon épouse, on a visité. C'est l'endroit qui m'a le plus ému en Israël. Et là, ils ont découvert 970 manuscrits environ, qui datent d'environ 3 siècles avant Jésus-Christ. Alors ça embête beaucoup les théologiens qui disaient que oui, il y a des écrits apocryphes, ils sont douteux, ils datent du 2e siècle après Jésus. Ah, manque de peau, ils sont dans les manuscrits de la mer morte. Ah, oui, les théologiens, voilà, faut pas croire tout ce que tout le monde raconte. Il faut voir les faits, les preuves, les faits. Et ces manuscrits-là ont été analysés, donc on sait maintenant, on sait aussi que c'était les Esséniens qui ont quitté Jérusalem parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le pouvoir religieux en place, et ils sont allés vivre à Qumran, c'est au bord de la mer, dans les rochers, c'est terrible, j'y suis monté, c'est terrible. Ils vivaient en communauté, et ils faisaient des copies en masse des Écritures Saintes, parce qu'ils sentaient les choses venir, ils sentaient que ça allait mal tourner pour Israël. Alors ils ont caché ces manuscrits dans des jarres, et c'est resté là, caché dans des grottes, dans les montagnes, sauvages comme c'est pas possible. Et c'est le 9 juin 1987 que j'ai acheté le livre du travail des traducteurs dans la collection La Pléiade. Il y a eu donc, comment on appelle ça, tous ces livres ont été mis sous la forme d'un livre qui s'appelle Les écrits intertestamentaires dans la maison d'édition Pléiade. Et on trouve donc tous ces écrits de la mer morte. C'est très intéressant. Et tout en lisant, j'ai découvert cela, un écrit d'Enoch. tiens, voilà Enoch qui réapparaît. Enoch. Alors on trouve ça à la page 1218. C'est un livre qui en contient plus de 1900 hein, de pages. Alors je vous lis. Je vous fais la lecture de ce qui était tenu caché, parce qu'il faut savoir que le mot apocryphe, ça signifie pas douteux, louche, faux, non, ça signifie tout simplement tenu caché. Alors il y avait des gens qui avaient intérêt à tenir caché certains livres, hein, les religieux, on ne peut pas les nommer, certains fanatiques religieux juifs, certains, les catholiques aussi, les protestants, bof, ils s'en sont pas trop occupés, et puis les évangéliques, ils savent même pas que ça existe, la plupart du temps. Il y a une grande inculture dans ce milieu-là. Donc, Enoch, alors je vous dis, si vous voulez acheter le bouquin, vous le trouvez n'importe où, hein, sauf dans les boucheries, évidemment, à la page 1218 du livre. Je vous fais la lecture, donc, de ce texte. Le voilà. Et la femme de Ner, Sophonim, stérile et qui n'avait pas donné d'enfant à Ner, Sophonim était au temps de la vieillesse et au jour de la mort, et elle conçut dans son ventre. Or, Ner, le prêtre, n'avait pas dormi avec elle depuis le jour où le Seigneur l'avait placée à la face du peuple. Sophonim eut honte et se cacha tous les jours, et personne du peuple ne le sut. Elle était dans les jours de l'enfantement, et Ner se souvint de sa femme et l'appela à lui dans sa maison pour converser avec elle. Et Sophonim alla auprès de son mari, et voici, elle était enceinte au temps de l'enfantement. Et la voyant, Ner eut une grande honte d'elle, et il lui dit, « Mais pourquoi tu fais cela, femme ? Et m'as-tu fait honte devant tout le peuple, et maintenant, écarte-toi de moi. Va où tu as conçu la honte de ton ventre, pour que je ne souille pas mes mains sur toi, et que je ne pêche pas devant le Seigneur. » Et Sophonim répondit à son mari, et lui dit, « Voici, mon Seigneur, le temps de ma vieillesse. Il n'y a pas eu en moi d'ardeur de jeunesse, et je ne sais pas comment a été conçue l'indécence de mon ventre. » Ner ne la crut pas, et Ner lui dit encore une seconde fois, « Écarte-toi de moi, de peur que je ne te frappe et que je ne pêche devant le Seigneur. » Et il arriva, comme Ner parlait à sa femme, que Sophonim tomba aux pieds de Ner et mourut. Et Ner s'affligea grandement et dit dans son cœur, « Est-ce que de ma parole que cela lui est arrivé, et maintenant, miséricordieux est le Seigneur éternel, puisque ma main n'a pas été sur elle ?» Et l'archange Gabriel apparut à Ner et lui dit, « Ne pense pas que ta femme Sophonim soit morte à cause d'une faute. Cet enfant qui est né d'elle est un fruit juste et que je recevrai au paradis pour que tu ne sois pas le père d'un don de Dieu. » Et Ner se hâta de fermer la porte de sa maison et d'aller chez son frère Noé. Vous savez Noé, le Noé de l'Arche, Noé. Et il lui raconta tout ce qui était arrivé à sa femme. Et Noé se hâta vers la chambre de son frère, et l'aspect de la femme de son frère était celui d'une morte, et ses entrailles au temps de l'enfantement. Et Noé dit à Ner, « Ne te désole pas, mon frère, Ner, car le Seigneur a couvert aujourd'hui notre honte, puisque personne du peuple ne le sait. Et maintenant, hâtons-nous de l'enterrer, et le Seigneur couvrira notre indécence. » Et ils placèrent Sophonim sur un lit, ils la vêtirent de vêtements noirs, et ils fermèrent la porte, et ils creusèrent une tombe en secret. Quand ils furent sortis vers sa tombe, l'enfant sortit de Sophonim, morte, et il était assis sur le lit, et Noé et Ner entrèrent pour ensevelir Sophonim, et ils virent l'enfant assis près de la morte, et les vêtements étaient sur lui. Et Noé et Ner s'effrayèrent fort, car l'enfant était achevé de corps, il parlait par sa bouche, et bénissait le Seigneur. Noé et Ner l'examinaient, et ils dirent, « Ceci est du Seigneur, mon frère. » Et voici le sceau du sacerdoce était sur sa poitrine, et glorieux l'aspect. Et Noé dit à Ner, « Frère, voici ce que le Seigneur renouvelle le tabernacle de la sanctification après nous. » Et Ner et Noé se hâtèrent de laver l'enfant, ils le vêtirent des vêtements du sacerdoce. Et Ner lui donna les pains consacrés, et il mangea. Et ils lui donnèrent le nom de Melchisédek. Et Noé et Ner prirent le corps de Sophonim, et ils l'enlevèrent les vêtements noirs, ils lavèrent son corps, et la vêtirent de vêtements brillants et choisis. Et ils lui bâtirent un tombeau. Et Noé et Ner et Melchisédek allèrent ensevelir avec honneur publiquement. Et Noé dit à son frère, « Garde l'enfant dans le secret jusqu'au moment favorable, parce que le peuple est devenu méchant sur toute la terre, et s'ils le voient de quelque façon, ils vont le faire mourir. » Et Noé s'en alla à sa demeure, et voici, toute l'iniquité se multipliait sur toute la terre dans les jours de Ner. Et Ner s'affligeait bien plus au sujet de l'enfant et disait, « Que ferais-je de lui ?» Et tendant ses bras vers le ciel, il invoqua le Seigneur et dit, « Hélas, Seigneur éternel, toutes les iniquités se sont multipliées sur la terre dans nos jours, et moi, je connais que notre fin est proche. Et maintenant, Seigneur, quelle est la vision de cet enfant, et quel est son destin? Ou que ferais-je de lui pour qu'il ne soit pas retenu avec nous dans cette destruction? Parce qu'il était au courant du fait que Dieu allait détruire la terre avec Noé, du temps de Noé. Le Seigneur entendit Ner et lui apparut la nuit dans une vision et lui dit, voici que déjà Ner, la perdition est devenue grande sur la terre. Je ne la souffrirai plus et je ne la supporterai plus. Voici, je pense, moi, faire tomber bientôt une grande destruction sur la terre. Mais pour l'enfant, ne t'afflige pas, Ner, parce que j'enverrai dans peu de temps mon archistratège, mon archange, Michel, et il prendra l'enfant et le placera dans le paradis de l'Éden. Il ne périra pas avec ceux qui doivent périr, et moi, je l'ai montré, et il sera mon prêtre des prêtres à jamais, Melchisédek, et je le sanctifierai, et je le changerai en un grand peuple qui me sanctifiera. Voilà comment Paul avait accès à ces textes. En tant que religieux, il avait accès à ces textes. En lisant, je découvre ça et je voulais donc vous le partager. Est-ce que vous avez compris comment Paul pouvait affirmer que Melchisédek n'avait ni père ni mère? Eh bien, tout simplement, en tant que rabbin, Paul de Tarse, devenu Paul, avait accès à tous les livres tenus cachés au peuple. Il avait accès aux livres apocryphiés, si j'ose dire, aux livres apocryphes tenus cachés. Il ne faut pas montrer ça au peuple, ils vont rien comprendre, c'est une bande d'abrutis. Cachons cela. Et c'est ainsi que nous savons, parce que Paul avait accès à ça, que Paul disait, parce qu'il le tenait de ses livres. En tout cas, à part Genèse 14, plus personne ne parle de Melchisédek jusqu'à Paul. C'est pourquoi, c'est ainsi que ça s'est passé. Paul reçoit Melchisédek, comprend ce que c'est, il veut le partager avec les autres, il le partage avec des Hébreux qui, eux aussi, sans doute, savaient aussi. Parce que ça s'était répandu dans le milieu chrétien qu'il y avait des livres d'Enoch, des livres de toutes sortes de livres. Et Paul ressort Melchisédek publiquement, il en parle clairement. Et si les religieux d'aujourd'hui continuent à tenir cachés ces livres magnifiques, c'est qu'ils ont des raisons politiques, je vous le dis franchement. Moi, j'ai reçu du Seigneur et je vous en parle. Alors, Melchisédek était roi de Salem et ce lieu portera plus tard le nom de Jérusalem. Vous trouvez ça dans Psaume 76, 2. Paul dit que Melchisédek signifie roi de justice et Salem signifie roi de paix, la paix. Salem, Shalom, tout ça, vous voyez. Donc il était sacrificateur du Dieu très haut aussi. Melchisédek, roi et sacrificateur, était le type de Jésus. J'explique le mot type. Il était le type de Jésus. Un type, c'est un ensemble des traits caractéristiques d'une catégorie de personnes. En quelque sorte, c'est un modèle. On trouve le mot type dans le mot prototype, hein, c'est le modèle, c'est voilà. Ou allons dans une lettre type, c'est-à-dire c'est la même lettre, vous voyez. Donc Melchisédek était le type de Jésus, c'était le modèle à venir. Melchisédek était quelqu'un d'absolument unique, on le voit dans la Bible, hein. Jésus est annoncé par Ésaïe 32:1, comme le roi de paix, et au verset 17 du même chapitre, comme justice. Dans Zacharie 6:13, il nous est dit que Jésus est annoncé comme un sacrificateur sur son trône. Vous voyez, il a tous les attributs de Melchisédek. Alors, outre ces choses, c'est intéressant de prendre au sérieux un détail, et voilà le détail. À quel moment Melchisédek est venu au-devant d'Abraham? Eh bien, il est venu quand Abraham avait eu raison des rois, qu'il les avait vaincus. Et comme Melchisédek est un type de Jésus, on peut comprendre que les hommes et les femmes de foi doivent battre les rois en priant, en les liant au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est à nous de le faire. Si ce n'est pas nous qui le faisons, alors on va laisser les gens aller manifester dans la rue, se faire taper dessus, taper, détruire. Non, c'est le monde. Nous, nous avons un pouvoir spirituel, mais est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que vous regardez sur révélationbible.fr, quand est-ce que nous avons des moments de prière pour que vous vous mettiez en chaîne avec nous, pour prier, pour lier les puissances de ténèbres, hein? Donc, on peut comprendre que les hommes et les femmes de foi, puisqu'Abraham est le père de la foi, doivent battre les rois en priant, hein, pas en les assassiner, et en les liant au nom de Jésus. Et qu'une fois que les rois de la terre seront vaincus, Jésus viendra établir son règne de justice et de paix. Eh bien, mes cadets, on n'y est pas encore. Parce que Jésus dit bien, hein, à la fin trouverai-je la foi sur la terre. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Ouais, il en trouvera par-ci, par-là, des gens de foi. Il y en a quand même, il y en a quand même. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Mais soyez des gens de foi, des gens qui gardent la parole de Dieu, qui obéissent aux paroles de Jésus, qui brillent dans les lieux de ténèbres, qui sont des gens de foi, qui agissent, qui prient, qui lisent les Saintes Écritures, qui s'en inspirent. Alors, voyons un peu la chronologie. Melchisédek va au devant d'Abraham, Hébreux 7, 1, et dans Genèse 14, 18, il nous dit qu'il a fait apporter du pain et du vin, c'est-à-dire qu'il a demandé à ses serviteurs d'apporter du pain et du vin. Et ça nous montre quoi? Avec le pain et le vin, nous avons des soins préventifs. Jésus va revenir, il vient au-devant de nous, mais avant il nous donne le pain et le vin, hein, comme Melchisédek. Le pain et le vin, c'est ce qui nous assure une véritable nourriture, un véritable breuvage de vie, le secours que nous trouvons en Jésus-Christ, le pain et le vin. Et nous prenons le pain et le vin chaque soir dans la communauté, sauf le dimanche, parce que le dimanche on apprend le matin pendant le culte. Et la prêtrise de Melchisédek, elle est éternelle, elle est perpétuelle, parce qu'il n'a ni commencement ni fin, mais surtout parce qu'il est toujours vivant. Si c'est transmissible, il faut d'abord qu'il soit mort, mais comme Jésus est toujours vivant, ben ça peut, il ne peut pas transmettre cette sacrificature. Vous comprenez? C'est tout simple à comprendre. Il est un esprit éternel, il habite de façon... Melchisédek, il a été tout de suite dans un corps de bébé qui s'est mis à parler, il est né de Sophonime et du Père éternel, de notre Père à nous. Alors la prêtrise de Jésus est donc éternelle, perpétuelle, selon le verset 24, intransmissible. Intransmissible pour la raison que je vous ai dite. Jésus a tout accompli, nous n'avons plus rien à accomplir de ce qu'il a accompli dans son office de sacrificature, dans sa prêtrise. Il a offert le plus grand sacrifice qui a jamais été fait, lui-même sur la croix, et ça se transmet pas, personne ne peut le faire à sa place. Hein. Et cette prêtrise, elle est exercée par Jésus-Christ qui est assis sur son trône, c'est-à-dire que maintenant il a des pouvoirs, il a dit « tout pouvoir m'ont été donné », alors il exerce son pouvoir et nous sommes, nous les gens de foi, ses agents sur la terre, ses agents, nous représentons la prêtrise de Melchisédek en agissant, en parlant, en prenant autorité au nom de Jésus qui vit en nous, au nom de Jésus qui, lui, possède la maîtrise de Melchisédek, mais nous ne la possédons pas. Personne ne peut posséder cette prêtrise, c'est Jésus seul. Seul Jésus exerce son office de sacrificature, de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Nous agissons en son nom, mais voilà, nous ne sommes pas encore délivrés de ce corps de mort. Voilà, j'espère que c'était très riche aujourd'hui, j'espère que ça vous a béni. Au sujet de la dîme, je pense que je vais en faire un sujet spécial parce que Il y a tellement de choses qui se disent, donc on verra ça une autre fois. Peut-être vendredi prochain, je ne sais pas comment je vais me faire. Je vais me laisser guider par le Seigneur, je veux pas. Peut-être vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de garder mes frères et sœurs et de les aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.